Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et nous recevons aujourd'hui Mauro Almeida Cabral pour son livre L'arme d'errance, Habiter la rue au féminin, publié chez Academia L'Harmattan. Bonjour Mauro.
Salut Pascal.
Donc déjà alors nous sommes très heureux à Radio Grand Ciel de t'accueillir. Nous allons avoir la chance d'avoir avec toi deux émissions. Et ce qui va nous permettre en fait de prendre le temps de te connaître et puis de faire un peu le tour de la question de ces larmes d'errance. Hein. Alors... Pour les auditeurs, on va dire qu'il y a un L entre parenthèses. Donc, il y a aussi donc l'idée des armes dans le monde de l'errance. On peut le dire ainsi. Et donc, c'est un livre qui renvoie à la question de l'errance au féminin.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà, donc... Alors, tout d'abord on va faire un peu connaissance avant de parler de ce livre. Parce que toi, dans cette postface, tu parles en fait de ton rapport aux Amérindiens, et ça m'a tout de suite intrigué. Donc, tu as un engagement auprès des Yanomami, donc en Amazonie. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, volontiers. Oui, donc effectivement, j'ai cet engagement auprès des Amérindiens Yanomami. Donc, les Yanomami, c'est un peuple indigène qui vit autant au Brésil qu'au Venezuela. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ceux qui vivent au Brésil. Et donc, moi, il y a ma première rencontre, pardon, elle remonte à 2013. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de les rencontrer au Brésil, en pleine jungle et tout ça. Je pense que ça a été un tournant pour moi dans ma vie personnelle, mais professionnelle aussi. À l'époque, je n'étais pas encore éducateur spécialisé. J'avais très peu de notions du monde social et tout ça. Je donnais des cours dans les écoles primaires au Luxembourg. J'étais remplaçant des instits. Tu vois, quand ils sont malades, il faut bien que quelqu'un vienne les remplacer. Donc, je l'ai fait pendant 2-3 ans. Donc, voilà, donc j'avais pas de grandes connaissances dans ce sens-là. Et le fait d'aller chez les Yanomami m'a permis déjà de voir qu'une autre manière de concevoir le monde était totalement possible et nécessaire. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire en Amazonie, dans le sens d'un engagement qui était important de pouvoir soutenir des croyances différentes, d'autres manières de voir le monde, justement. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné un peu la force de m'engager sur des études à plus long terme. Donc, Là, j'ai fait des études en tant qu'éducateur spécialisé. Je suis en train de clôturer un master en anthropologie. Donc voilà, je pense que cette rencontre avec les Nomamis, ça a été vraiment un tournant pour moi en tout cas.
Et c'était donc à la faveur d'une relation avec une ONG?
Tout à fait, cette première rencontre, oui. Donc j'étais le responsable d'un projet d'éducation différenciée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au Brésil, on a une constitution, c'est la constitution actuelle qui remonte à 1988. Et c'est la première constitution qui reconnaît enfin le droit des peuples indigènes au Brésil, c'est-à-dire les droits d'avoir des traditions différentes, d'avoir accès à une éducation qui est basée sur leur quotidien, qui est basée aussi sur leurs croyances. Ils ont le droit à leur territoire, c'est une notion clé pour les questions indigènes, la question du territoire. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont découlé de cette constitution, même si dans les faits, alors il y a le côté théorique et le côté pratique. Dans la théorie, je dirais que la constitution représente un certain idéal dont on peut rêver, pardon. Par contre, dans les faits, aujourd'hui encore sous Bolsonaro, mais aussi sous Lula ou Dilma Rousseff, il y a eu beaucoup de malveillance envers ces peuples-là. Et nous, ce qu'on recherchait à faire à travers ce projet d'éducation différenciée, c'est justement de valoriser une autre manière de penser l'école, de faire l'école, d'enseigner. Et un des points clés du projet a été le fait de dire que au niveau de l'alphabétisation des enfants Yanomami, elle ne va pas se faire en portugais, elle va se faire en Yanomami. Donc ça, c'était un tournant pour vraiment valoriser l'apprentissage de la langue et la préservation de la culture à travers la langue. Et donc c'est un projet auquel j'ai tout de suite cru. Et donc voilà, c'est à travers le fait que j'étais responsable de ce projet au Luxembourg que j'ai voyagé en Amazonie. Bah, comme dans chaque projet de coopération internationale, pardon, il faut aller sur place, il faut essayer de voir si les indicateurs ont été atteints, etc. C'était absolument pas ce qui m'intéressait dans ce voyage, mais c'était, comment dire, j'avais une raison pour y aller, on va dire. Voilà.
Et donc cette ONG, elle est luxembourgeoise.
Oui, tout à fait, oui.
Ok. Et alors, la question, c'est pourquoi une ONG luxembourgeoise s'intéresse-t-elle à ce qui se passe dans la forêt brésilienne? Et par qui est-elle missionnée? Comment les choses s'orchestrent-elles?
Oui, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui existait déjà à travers une autre ONG, donc on parle de l'ONG Terre des Hommes.
D'accord.
C'est une ONG qui existe dans plusieurs pays. Et Terre des Hommes Suisse, ils avaient déjà un projet avec les Yanomami depuis quelques années.
D'accord.
Comme le Luxembourg donc, est un petit pays, l'ONG Terre des Hommes Luxembourg était petite aussi. Il y a les membres de l'ONG de la Suisse qui sont venus présenter le projet, si on ne voulait pas faire un cofinancement du projet. C'est comme ça que ça s'est mis en route petit à petit. Et il y a eu cet intérêt, évidemment, de Luxembourg de financer en partie ce projet. Et donc, il fallait un responsable de projet, quelqu'un qui parle portugais, ce qui est mon cas. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit. Alors, d'où vient cet intérêt? Je pense qu'il venait de plusieurs endroits. Je pense qu'il y avait une vraie croyance dans l'importance de soutenir ce projet, dans l'importance de préserver les droits des peuples indigènes à vivre selon d'autres manières de voir les choses. Et puis je pense que c'est aussi, comment dire, c'était une ONG qui avait très peu de projets. Je pense qu'à l'époque, ils en avaient trois ou quatre. Et donc, c'était un projet qui était cofinancé par une autre grande ONG. Donc, ça ne représentait pas beaucoup, beaucoup de travail et ça nous permettait aussi d'acquérir une autre expertise dans un domaine qu'on ne connaissait pas, le monde indigène, quoi. Ouais.
Ok, c'est vraiment, vraiment passionnant. Alors, je pense que tout le monde aura compris que si c'est une ONG luxembourgeoise et que tu as travaillé dans des projets luxembourgeois, c'est que tu habites au Luxembourg.
Tout à fait.
Alors, on a compris aussi que tu parles portugais. Et si tu parles portugais, c'est que, comme ton nom l'indique, tu es d'origine portugaise.
Ouais, c'est ça.
Donc, je redis ton nom, Mauro Almeida Cabral.
Ouais.
Alors, bon, bah, en fait, on se connaît, on a fait connaissance, hein, donc je trouve ça très intéressant. Tu es portugais, mais pas simplement portugais. En fait, tu es porto-angolais, c'est ça?
C'est exactement ça, oui.
Tu peux nous raconter un peu, ton histoire, la trajectoire familiale incroyable, qui est la tienne?
Ah oui, alors, je pense que comme dans chaque famille métissée, où il y a au moins deux cultures différentes, ce sont des récits de vie et des histoires familiales très complexes. Donc, je peux peut-être tirer quelques fils conducteurs, mais alors, moi je suis né à Lisbonne, mais mes parents ils sont nés en Angola, leurs parents eux sont aussi nés en Angola. Donc, ce sont des relations assez compliquées dans le sens où il y avait cette question de la colonisation. L'Angola étant une ancienne colonie portugaise jusque au milieu des années 70. Voilà, donc on est une famille issue de ce métissage. Et je dis souvent que voilà, je suis moitié colon, moitié colonisé. Quand j'ai pris conscience de cette phrase un peu bateau, ça, je pense que ça a joué sur mon identité quand même. C'est parti d'une blague, moitié colon, moitié colonisé, parce que ça remonte quand même il y a des générations. Mais quand même, il y a beaucoup de vérité qui se cache derrière ça, beaucoup de complexité justement. Et moi, j'ai grandi avec ce fantasme d'une Afrique dans laquelle mes parents ils ont grandi, où mes grands-parents me racontaient que voilà, la vie en Angola était bien meilleure qu'au Portugal, mais je ne savais pas vraiment mesurer ça. Je pense que j'en ai pris conscience le jour où j'y suis allé. C'était juste avant mon voyage en Brésil, en fait. J'ai passé 3 semaines en Angola et j'ai vécu un vrai choc culturel. Je rentre au Luxembourg et le jour d'après, je pars pour le Brésil. Donc sur 2 mois, j'ai pris d'énormes claques culturelles et je pense que là, on est bientôt 10 ans plus tard et je suis encore en mode de digestion par rapport à tout ça. Donc voilà, oui, pour revenir à ta question, effectivement, au milieu des années 70, mes parents, ils étaient considérés comme des réfugiés de guerre. Ils ont dû quitter l'Angola avec mes grands-parents et d'autres membres de la famille aussi. Ils ont atterri à Lisbonne, au Portugal. Et donc là, le gouvernement leur avait attribué des chambres d'hôtel dans lesquelles ils sont restés, je ne sais plus quantifier, mais il me semble quelques mois. Et certains, ils ont été déplacés au fur et à mesure des bâtiments qui venaient de se faire d'être construits ou des maisons qui venaient de se libérer. Ils allaient être placés stratégiquement dans tel ou tel quartier. Et ce qui a donné vraiment la création de pas mal de banlieues à Lisbonne encore aujourd'hui. Il y a de vrais quartiers africains, ou du moins de descendance africaine, qui sont là encore aujourd'hui. En partie, certains sont en train de se faire détruire. J'ai de la famille dans ces quartiers-là. Il y a beaucoup d'explications à tout ça. C'était en partie parce que c'était des territoires qui appartenaient à quelqu'un, mais lorsque les gens ont été déplacés au Portugal, ils n'avaient pas d'autre solution. Ils ont commencé à construire des maisons sur des terrains qui ne leur appartenaient pas. Ils y habitent depuis 40 ans, et là maintenant on commence à raser des quartiers entiers. C'est un vrai drame hein, ce qui se passe. Il y avait même Amnesty International qui avait fait des rapports sur Lisbonne il y a des années, parce que des gens, du jour au lendemain, ils se faisaient jeter de leur habitation, il n'y avait pas de solution par derrière. Donc voilà, et puis de fil en aiguille.
Ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire que ces personnes-là se retrouvent à la rue, quoi.
Oui, tout à fait. Dans le quartier que je mentionne par exemple, où j'ai de la famille, c'est le quartier de Sainte-Filomena, Bairro Sainte-Filomena. C'est un quartier au nord de Lisbonne. Certaines personnes qui habitaient à côté de la maison de la famille, ils ont vu leur maison totalement rasée. Et alors, il y avait cette logique de solidarité entre voisins. Certains étaient familles aussi. Donc voilà, on va héberger des gens pendant des semaines, des mois. À la fin, les gens ne veulent plus rester. Et il y a eu cette promesse du gouvernement que les gens allaient être relogés. Alors, je n'ai pas les chiffres. Hein. J'ai entendu que pour pas mal de personnes, ça fonctionnait, mais pour beaucoup, ça n'a pas fonctionné. Et il y a même eu des gens qui se sont suicidés par la suite, par manque de solutions, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est très tragique. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup dans les médias, ni même au Portugal. Mais je pense qu'il suffit d'y mettre les pieds une fois dans de tels quartiers, on comprendra assez vite dans quelle logique on se trouve. Et donc voilà, mes parents, à un moment donné, ils ont quitté le Portugal pour venir, enfin pour des raisons économiques, ils sont arrivés à Paris. Ils y ont vécu, il me semble, 2 ans. Mais là aussi, c'était un peu compliqué. Et donc mon père, il est parti tout seul au Luxembourg pour essayer de trouver une solution. Et là, en fait, il y a une petite anecdote que je vais te raconter tout à l'heure. Justement, c'est que donc mon père, quand il arrive à la gare de Luxembourg, il est accueilli, enfin accueilli, il rencontre un monsieur ici du Cap-Vert. Il l'a accueilli, il a dit, écoute, je vois que tu es à la recherche d'un logement ou quoi. Il voyait que mon père était un peu perdu à la gare de Luxembourg. Et il lui a proposé son aide. Donc il lui a arrangé une chambre la journée même et tout ça. Ils sont devenus de grands amis. Et alors, la vie, voilà, j'ai pas d'explication rationnelle à ça, mais depuis que je suis éducateur de rue, J'ai compris que ce monsieur-là, il est devenu habitant de la rue, justement, donc sans abri. Et voilà, donc quand je le rencontre, il sait que je suis le fils de mon père. C'est toujours une relation très particulière, qui est souvent très émotionnelle, autant pour lui que pour moi. D'un côté, c'est lui qui a permis à mon père qu'on vienne s'installer au Luxembourg, et c'est aujourd'hui, des années plus tard, lui qui n'a plus de logement. C'est une situation très particulière, et donc quand je le vois au quotidien, ça redonne d'autant plus de sens à mon métier d'éducateur de rue, quoi. Ouais.
Bien sûr. On va venir sur la question du Luxembourg. J'ai des questions à te poser parce que nous, Français, on a une représentation sur le Luxembourg qui est assez particulière. Mais avant ça, je voudrais te demander, tu parles la langue des Yanomami ?
Non.
Non ?
Non, je ne parle pas la langue des Yanomami, non.
C'est difficile ? C'est une langue qui est difficile à apprendre ?
Oui, c'est une langue qui est difficile. Enfin, pour moi, hein, c'est subjectif. Ouais. Pour moi, elle est difficile à apprendre. Ouais. Il y a quelques mots que j'ai appris. Je capte un peu, mais ils ont plusieurs variations dans la langue. Et jusqu'à récemment, on pensait qu'il n'y en avait que quatre. Mais selon les dernières recherches qui remontent, il me semble, il y a à peine un an, en fait, on découvre qu'il y en a six. Donc voilà, c'est une culture très riche au niveau de la langue. Et je pense même qu'au niveau des linguistes, il y a pas mal de choses à découvrir encore. Ouais. Ils sont en pleine découverte ethnologique, j'ai envie de dire.
D'accord. Ouais. Ils sont combien encore ?
Alors, ils sont à 32 000 en ce moment.
32 000 ?
Oui, environ, selon les derniers recensements.
D'accord. C'est des chiffres que tu suis régulièrement ? Enfin, c'est
oui, c'est ça. Oui, ouais. Toutes les X années, il y a un recensement qui est fait.
OK.
Et donc, voilà, il me semble qu'on est aux environs de 32 000. Ouais.
D'accord. Et tu as suivi avec Bolsonaro, la déforestation
Oui.
De la forêt amazonienne, ça doit être de plus en plus compliqué pour le peuple Yanomami de continuer à vivre dans la forêt. Ça doit être difficile, non ?
Extrêmement difficile.
Ouais.
Alors, pour le contexte, le peuple Yanomami, c'est un peuple parmi 305 qu'il y a au Brésil.
Ouais.
Il y a une moyenne... Alors, il faudrait encore une fois que je vérifie les dernières statistiques, vu que maintenant, chez l'Yanomami, on ne compte plus 4 langues, mais 6.
Ouais.
Il y a environ 180 langues indigènes au Brésil.
180.
Oui, alors qu'on ne connaît que le portugais, mais c'est d'une extrême richesse culturelle au
ouais.
Brésil. Alors, le peuple Yanomami, c'est par contre le plus grand peuple qui vit en isolement relatif.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Yanomami, la plupart n'ont jamais été en ville, ne parlent pas portugais. Bah, alors, automatiquement, n'ont pas vu de voiture, etc. etc. Par contre, il y en a d'autres qui, à un moment donné, vu que c'est une question de territoire, qui vivent vraiment à la frontière entre le territoire, entre guillemets, brésilien et le territoire indigène Yanomami. Et donc ça, c'est d'une grande complexité, parce qu'alors, ils vivent vraiment dans deux mondes différents, le monde traditionnel de leur famille, de leurs parents, etc., et le nouveau monde, entre guillemets, qui est extrêmement moderne, qui vient introduire d'autres logiques, la logique de l'argent, la logique des smartphones, la logique des images qu'on peut voir à longueur de journée. C'est des choses qu'ils ne connaissaient pas traditionnellement.
Mmh.
Et donc voilà, c'est un peuple qui vit en relatif isolement, parce que vraiment il y a beaucoup de gens, beaucoup de Yanomami qui quittent rarement leur forêt.
Mmh.
Et il y en a encore aujourd'hui qu'on considère comme totalement isolés, où les Yanomami eux-mêmes racontent que dans la forêt ils ont vu des petites communautés de Yanomami, mais qu'eux-mêmes n'ont jamais contacté. Donc on sait qu'il y en a encore qui n'ont pas été... Enfin, j'aime pas trop le terme de contact, mais juste pour qu'on comprenne bien de quoi on parle.
Mmh. Ok. Nous allons faire une pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après avec Moreau.
De idade ainda a terra já são cheias de más lembranças. Eu sou daquela terra de gente generosa, mas que de tanto esperar já tem a esperança idosa. Eu sou ainda daquela terra onde se acredita e se guarda a esperança de que depois da tempestade venha a bonança. Mas eu sou daquela terra que hoje é só ruínas, mas que também sabe que a guerra não é nossa sina. Mas eu sou daquela terra, mesmo em ruínas gosto dela. É como mãe já velha e acabada, que deve ser mais amada. Mas eu sou daquela terra, mesmo em ruínas gosto dela. É como mãe já velha e acabada, que deve ser mais amada. mas eu sou daquela terra.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur animée par Pascal Lerest qui reçoit aujourd'hui Mauro Almeida Cabral pour son livre L'arme d'errance avec un sous-titre Habiter la rue au féminin, un livre paru chez Academia. Academia. Avec une collaboration de l'Armatan également, l'éditeur français. Academia, c'est au Luxembourg ou c'est...
C'est en Belgique. À Louvain-la-Neuve.
Ok, très bien. Donc, Mauro, donc là, on parlait de l'Amazonie, des Yanomami. Tu as eu un contact avec les Tupis, les Guarani, les Guayaki, d'autres peuples que les Yanomami ou...
Moi-même, tu veux dire? Oui, avec plusieurs peuples d'ailleurs, parce que quand j'étais en Amazonie, j'ai eu la chance de des fois participer à des événements organisés par ce qu'on appelle le mouvement indigène au Brésil.
Ok.
Là aussi, le mouvement indigène, c'est, voilà, il y a cette idée de mouvement, mais il y a certains indigènes, notamment Daniel Munduruku, lui préfère parler de le monde indigène en mouvement. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, mais voilà. Et donc, j'ai eu la chance de participer à certains événements organisés par ce mouvement-là. Et alors là, évidemment, il y avait des peuples, enfin des représentants de beaucoup de peuples différents. Et donc oui, j'ai rencontré d'autres peuples aussi que les Yanomami. J'ai vécu une semaine chez les Makushi et les Wapichana, qui se trouvent vraiment au nord du Brésil, dans l'état de Roraima, vraiment à la frontière du Venezuela. Et donc, en fait, c'était ça ma toute première rencontre avec les Indiens, avec les Amérindiens, c'était les Wapichana et les Makushi. C'est après, la semaine d'après, que je suis allé voir les Yanomami pour la première fois, et c'est envers eux que j'ai toujours un engagement aujourd'hui.
Ok, et tu as pu avoir des activités avec eux, du type chasse, pêche ou...
Avec les Yanomami?
Oui.
La pêche,
ouais.
Très intéressant. Donc, ouais. Alors, ils ont plusieurs techniques différentes pour aller à la pêche, mais celle que j'ai vécue, moi, c'était avec un simple fil de pêche. Ouais. Il n'y avait pas de canne, il y avait juste le fil.
Ouais, juste voilà. Avec un fil.
Oui, avec un fil, et ils pêchent des piranhas sans problème.
Ah oui,
aucun souci.
D'accord.
Et c'est très impressionnant parce qu'il y a, des enfants, je ne sais pas, de 12-13 ans qui le font. Ils prennent leur seau et ils vont pêcher... une vingtaine de piranhas pour la journée.
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que donc, chez les Yanomami, comme chez tant d'autres peuples indigènes, on n'a pas de frigo. Donc, c'est-à-dire qu'on va à la chasse et à la pêche selon ce qu'on a besoin. Il n'y a pas cette idée de... Voilà, je vais en prendre au cas où. Non, ça va être bien réfléchi parce qu'il y a cette profonde envie de vouloir laisser au niveau de la nature un certain équilibre. Voilà, et on va penser au jour de demain.
Voilà. Ouais. C'est un prélèvement, quoi.
C'est un prélèvement, voilà. Donc, je dis, on va passer un jour de demain. C'est presque un paradoxe parce que chez les indigènes au Brésil, et je pense que dans d'autres parties du monde aussi, il y a cette particularité, cette capacité à vivre le moment présent.
Ouais.
Ils sont souvent dans le moment présent, mais ça ne les empêche pas de se dire, voilà, s'il y a 10 poissons, j'en prends que 5 si j'en ai besoin que 5, voilà. C'est ça que je voulais dire.
Et les piranhas, c'est bon? Ça se mange?
Non, ça se mange, c'est très bon.
Ouais.
Alors, quand j'étais... Alors, chez les Yanomami, évidemment, on prend le bain à la rivière. Il n'y a pas de douche, donc on va se baigner tous les jours. C'est une des premières activités du matin, avant les peintures corporelles. On va prendre le bain. C'est un bain collectif le plus souvent, tout le monde est dans l'eau. Je faisais connaissance avec quelques Yanomami qui parlaient portugais et ils me disent si ça va dans l'eau, si c'est pas trop froid et tout ça. Et je lance la blague de tant qu'il n'y a pas de piranha, tout va bien. Alors il y a fou rire général à ce moment-là. Et en fait, j'ai compris que voilà, on était en plein. On cohabitait dans l'eau avec les piranhas. Et moi, j'avais cette notion très européenne de. S'il y a des piranhas dans l'eau, il ne faut pas mettre le pied. Quoi. Ils vont nous bouffer le pied, alors que ce n'est pas du tout vrai. Tant qu'on ne les attaque pas ou tant qu'on n'en blesse pas un piranha, il y a très peu de risques d'être attaqué. Voilà.
D'accord.
Donc, ce qui fait que... Voilà. Par contre, il y a quand même des récits de pêcheurs non indigènes qui vont alors dans des territoires de manière illégale, hein, parce qu'ils n'ont pas l'autorisation d'aller pêcher, et qu'il ne faut pas attention, et qu'alors ils marchent avec les, tu vois, ils mettent les grandes bottes en caoutchouc pour aller dans l'eau, ils ne font pas attention, ils vont blesser un ou deux sans vouloir, ou en le pêchant, ils ne font pas attention, ils le rejettent dans la mer, le poisson il saigne. Là, par contre, ils prennent des risques.
Ah oui.
Voilà, mais...
Ça veut dire qu'en fait, les poissons ont une sorte de moyen de communication entre eux, et en fait, ils se vengent sur celui qui les a agressés.
C'est ça. En tout cas, c'est l'explication qu'on m'a donnée. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais c'est comme ça qu'on me l'a expliqué.
Okay.
Donc, effectivement, je peux témoigner. J'ai pris des bains pendant un mois dans l'eau avec les piranhas. Il n'y a jamais eu d'accident.
D'accord.
Par contre, ils sont très bons, oui. Grillés au feu, c'est très bien.
Ah, ouais. OK. Bah, c'est étonnant. Tout à fait étonnant. Très bien. Donc, on va en venir au Luxembourg, parce que quand j'ai découvert ton livre... que tu m'as envoyé, hein, donc avant on ne se connaissait pas, je découvre ton livre, un livre qui est paru d'ailleurs en 2021, je crois, c'est ça ?
En 2020.
En 2020.
Oui, c'est ça.
Donc, lorsque tu me l'envoies, en fait, donc je découvre une réalité du Luxembourg que j'ignorais totalement, parce que bon, le Luxembourg, pour moi, c'est le paradis fiscal par excellence en Europe. Et quand on se balade un peu au Luxembourg, ce qui m'est arrivé une fois, je crois, je pense que j'y suis passé une seule fois dans ma vie, et les images que j'en ai, c'est plutôt quelque chose de... c'est une ville très propre, la campagne est magnifique, voilà, en fait, on n'imagine absolument pas les problèmes sociaux. En tout cas, moi, je ne les ai pas vus. Et pourtant, j'ai un œil... j'ai un œil professionnel. Chaque fois que je me déplace quelque part, je suis accoutumé à voir un peu les problèmes. Et là, je les ai pas vus. Et donc, quand j'ai lu ton livre, j'ai été un petit peu stupéfait. Et voilà. Donc déjà, peut-être avant d'aborder les questions liées à ton livre. Le Luxembourg n'est pas, c'est peut-être un paradis fiscal, mais c'est pas un paradis au sens classique du terme.
Oui, je pense que c'est ça. Oui, je pense que ça résume bien. Je pense que ça peut être un paradis pour beaucoup de gens. Pour d'autres gens, je sais pas si le parallèle avec l'enfer est pertinent, mais je dirais qu'il est plus proche de l'enfer que du paradis pour beaucoup de gens, notamment les femmes que je décris dans le livre là. Évidemment, bon, je parle uniquement des femmes, mais c'est la même réalité pour les hommes. Il n'y a pas de différence dans ce sens-là. C'est un pays qui est effectivement connu pour sa richesse économique, pour les grands boulevards, plein de banques, les banques privées, les investissements privés, les investissements internationaux. C'est un pays qui abrite beaucoup de grandes boîtes aussi. Mais derrière tout ça, il y a l'autre côté de la carte postale, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un peu le côté que j'ai essayé de mettre en avant. Il ne s'agissait pas du tout pour moi de dénigrer le pays, absolument pas. Mais au contraire, d'essayer de participer à la prise de conscience qu'une richesse économique ne veut pas dire que toute la population se portera bien. Et c'est vraiment, je pense que l'exemple de Luxembourg est très parlant. Il y a beaucoup de personnes qui sont en rue. C'est un tout petit pays. Et il suffit de passer quelques heures... entre guillemets, dans les bons quartiers, pour s'en rendre compte, quoi.
Alors, il y a combien d'habitants au Luxembourg, à peu près ?
Je crois que ça tourne autour des 700 000, il me semble.
700 000 habitants ?
Il me semble, oui.
Donc, il y a la ville elle-même, et puis ensuite, il y a une campagne qui est assez, assez limitée, en termes de superficie.
On est à 2000 et quelques kilomètres carrés.
Oui, donc
c'est... Tout le pays, oui.
Oui, c'est... C'est relativement petit.
C'est très petit, oui.
Ouais. OK, donc, dans ce livre-là, tu parles des femmes qui sont à la rue. Le phénomène de l'errance au Luxembourg, c'est un phénomène qui est très, très important ?
Je pense qu'il le devient de plus en plus, en fait. Il y a de plus en plus d'inégalités sociales au Luxembourg.
Ah oui ?
Oui. C'est-à-dire que les gens qui gagnent beaucoup d'argent en gagnent beaucoup, enfin de plus en plus. Et puis il y a toute une catégorie de personnes qui n'arrivent pas du tout à joindre les deux bouts au fin du mois. Et puis il y a ceux qui si on, enfin, pour faire un peu la parallèle avec des théories un peu plus sociologiques peut-être, avec Robert Castel, qui alors se trouve dans cette zone de totale désaffiliation. Donc il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a aucun filet de protection dans une société moderne quand même. Hein. C'est, enfin, moi ça m'interroge à chaque fois de voir qu'il y a encore des personnes qui, en plein Occident, n'ont pas accès à une sécurité sociale ou qui ont du mal à pouvoir consulter un médecin parce qu'ils ne savent pas comment payer des factures, etc., etc. Je pense que ça pose question sur le modèle social.
D'accord, il n'y a pas d'accès aux soins comme en France ?
Alors, les choses sont en train de changer un peu. Au Luxembourg, il y a Médecins du Monde qui s'est installé depuis quelques années maintenant, et heureusement. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la CUSS, donc la CUSS, c'est-à-dire que c'est une caisse universelle de soins de santé,
okay.
qui a vu le jour, je n'ai plus la date en tête, mais il me semble qu'il y a quelques mois seulement, donc 2021-2022, ce qui est assez tard quand même par rapport au reste des autres pays de l'Europe, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à une caisse de soins pour que les factures de santé soient payées enfin. Avant, beaucoup de gens, ils allaient aux urgences, ils étaient soignés évidemment, mais alors le moment où nous, en tant que travailleurs sociaux, on va s'engager pour que la personne qui est en rue, à un moment donné, puisse accéder au logement, puisse avoir une adresse, puisse avoir un travail. Et c'est là où la personne, elle s'est dit, ça y est, je commence à m'en sortir un peu. Qu'elle va être, entre guillemets, repérable par toutes les administrations. Et les courriers vont suivre les uns après les autres pour des impayés, pour des factures, pour des lettres d'huissier. Et donc là où les personnes pensaient qu'elles avaient enfin la tête hors de l'eau, et c'est à nouveau un basculement. Ouais. Ils ont à nouveau un pied à la rue, un pied dans le logement, et c'est fortement décourageant tout ça. Donc, j'espère qu'avec l'instauration de cette nouvelle caisse-là, l'accès aux soins qui est facilité, on pourra vraiment réduire ces situations-là. Parce que j'ai vu beaucoup de gens être découragés et qui disaient... une certaine forme de vrai désespoir, hein, de se dire... j'ai fait tout ça pour rien quelque part, parce que maintenant je me trouve coincé avec... Il y avait des fois 60 000 euros de dettes, comment ils vont faire pour payer, pour s'en sortir, qui retournent à la rue, alors tout simplement. Il n'y a plus de courrier, il n'y a plus de mauvaise surprise, et voilà.
Donc, la crise du logement, c'est une réalité aussi au Luxembourg ?
Oui, tout à fait, c'est une réalité qui touche toute la population. Toute la population, des étudiants jusqu'aux travailleurs. Les prix ont vraiment flambé au Luxembourg. Il devient très difficile, même ça fait quelques années déjà, hein, si on est... une personne qui habite seule et qui travaille, qui vit du salaire social minimum, ça devient, je ne dis pas impossible, mais pas loin de l'impossible pour se loger. Les prix ont vraiment flambé, oui.
Et c'est une réalité qui est nouvelle ou c'est quelque chose qui a toujours existé ?
Alors, au Luxembourg, je ne saurais pas le chiffrer, mais je sais que ça ne date pas d'hier. Alors, l'accès au logement a déjà été difficile, il me semble, il y a 15-20 ans. Mais je pense qu'on est arrivé à un tournant aussi où il y a une augmentation de la population, l'augmentation des prix, des gens... Et en fait, il n'y a pas assez de logements au Luxembourg. C'est-à-dire que toutes les années, on va en construire, mais il n'y en a jamais assez. Donc même nous, en tant que travailleurs sociaux, des fois, on aimerait trouver des logements pour les gens. On a l'argent, et tout, mais on n'a pas les logements. On n'a pas ça. Et voilà, c'est un vrai problème.
Oui. Ok. Nous allons faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Mona mwenye, soyaweza Mona mona mwenye Aluke nungolo fwa Damu bingi kiaze Mwenye wando kalabe nyaba Eme ngondo ya mye Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur de Pascal Lerest qui reçoit aujourd'hui Mauro Almeida Cabral pour son livre L'arme d'errance, habiter la rue au féminin. Alors donc on parlait du Luxembourg et de la situation sociale qui n'est pas forcément favorable pour les personnes qui sont qu'on peut qualifier plutôt d'ouvriers, d'employés, on est plutôt sur les populations qui sont fragilisées du fait même de la rémunération, c'est ça, qu'ils peuvent obtenir de leur travail. Et la question du chômage est-elle aussi une question qui se pose?
Oui, elle se pose, bien évidemment, chez beaucoup de jeunes, justement. Donc voilà, comme j'ai dit avant, c'est une question qui touche toute la population, mais évidemment les populations qu'on classe alors classiquement dans la catégorie de pauvres sont les plus touchées. Comme j'ai dit, les prix flambent et les moyens ne sont pas en train de suivre en ce moment.
Ok. Et le chômage, on peut. T'as une idée, non, du
J'ai taux pas de les chiffres là. Je suis désolé, j'ai pas les chiffres.
Non, c'est. C'est pas grave, c'est juste. C'est des questions qui viennent comme ça, en fait.
Oui, oui, bien sûr.
On est un peu dans une conversation, on va dire, spontanée. Et c'est vrai que c'est tellement loin de l'image, du paradis fiscal, voilà, qui est toujours mis en avant, qu'évidemment, à la lumière de ton livre et de ce que tu mets en évidence. Voilà, c'est éminemment questionnant. Donc, tu t'es intéressé à la question de l'errance au féminin. Alors, pourquoi déjà, en fait, cette subdivision? Il y avait un enjeu particulier?
Oui, il y en avait. Alors, je pense notamment à deux épisodes clés qui m'ont fait prendre conscience des femmes à la rue. La première, c'était lorsque j'étais encore en formation d'éducateur. On avait un cours... D'ailleurs, je salue M. Marignac, si un jour il va nous écouter, parce que c'est un professeur qui est devenu un ami entre-temps. On devait construire un modèle d'intervention en tant qu'éducateur.
Oui.
Et donc, il fallait penser à plein de paramètres auxquels il fallait être sensible et tout ça. Et donc, je construis mon modèle d'intervention théorique. Hein. Et alors, il me dit, tu proposes le même modèle aux femmes qu'aux hommes? Je leur dis oui. Et alors, il me regarde, on se sourit, et à un moment donné, je prends conscience qu'en fait... Il y a une particularité, ne serait-ce que dans la posture d'éducateur qui devrait, non pas de manière automatiquement et standardisée, être différente envers les femmes qu'envers les hommes, mais il y a une particularité de plus, c'est la question du genre, que je n'avais pas du tout en tête à ce moment-là. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, je ne m'y connais pas du tout dans la question du genre, et j'ai développé un modèle d'intervention éducative spécifique pour la question du genre, donc pour les femmes, entre guillemets. Et puis, en parallèle à ça, lorsque j'étais encore jeune stagiaire, je rencontre donc un homme à la rue et qui vient me dire, voilà, Mauro, j'aurais besoin de ton soutien. Mais par contre, je comprends très vite que le soutien qu'il me demande n'est pas du tout pour lui, mais c'est pour sa compagne. Et je lui dis, pourquoi tu viens de me dire ça quelque part? Et il me dit que, voilà, enfin, il me fait comprendre que, voilà, moi, je suis un mec, moi, je connais la rue, moi, ça fait des années, moi, je me débrouille. Par contre, ma compagne, voilà, c'est une femme. Enfin, il me fait comprendre que, voilà, c'est une femme. Et à travers ces paroles, j'ai encore une fois pris conscience qu'il y avait une particularité au fait d'être une femme à la rue. Et petit à petit, voilà, il m'a expliqué qu'elle dort dans la voiture avec lui. Des fois, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, il faut se lever la nuit, sortir en pleine ville... on peut rencontrer des mauvaises personnes. Enfin, il le traduit comme ça. Et voilà, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Donc, j'avais deux éléments quelque part en clé. Je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à creuser là. Et c'est de là où est partie l'idée de m'intéresser un peu plus aux femmes qu'aux hommes. Voilà.
Très bien. C'est en tout cas quelque chose d'assez... d'assez dramatique hein, que tu décris dans ce livre avec les questions de prostitution, questions de drogue, Mais on va pas l'aborder tout de suite. On va d'abord faire une pause avant de voir la rubrique des livres du mois et on reviendra dans le cœur du sujet de ton livre juste après. À tout de suite. Hey, alongside the one and only Vilma, alongside the one and only Soundboy Killer Nunnage, some hip hop on the 8 bar, yeah. New style, new flavor, new rhythm, all about the wisdom and knowledge, the key to power and success, boy. Watch your back, think, stop and think before you do it. The my Babylon system we believe in it. Calm down, boy, yeah. But we chant down Babylon, living up, walking down to the Zion. Boa ataca, tu não respondes. Sistema de forte e tu viras as costas. Mano, mínimo stress, com o teu brother tu encostas. Uma lâmina, um cana na tua pele, com os dedos a flor da pele. Tu és capaz de falar, teu brother com o poder e papel. Não viria o que te tirou, não é poder e papel. Ignorância é XL, por o trizela. Não te roubava a vida à porta da boate. Um litro do isso que bate, forte. 15 minutos depois embate, forte no voto. Não fiz, no despisto. Um foda frio, chama linda, que ainda és de noite, tu despisto. Tudo bem atrás, quando sequer fugiste isto. Equipamento de segurança que nem resististe. Joe, pau duro, não aguenta, tusa, fusa, 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 coisa, cita, blusa, cruza, esperma, intrusa, funda, musa, paternidade se recusa. E a tua cria, criança, futuro, no teu próprio modo de vida.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur et nous arrivons donc à la rubrique des livres du mois avec ce mois-ci 4 livres consacrés à l'Ukraine. Voilà, donc la guerre est maintenant installée depuis de très longs mois et je trouvais intéressant en fait de vous proposer quelques livres, dont le premier aux éditions Sutton, « L'Ukraine de l'Antiquité à 2015, une histoire abrégée, un regard particulier », un livre de Francis Mokobeg, donc dans la collection « Monographie ». Voilà, c'est un livre très très intéressant, donc qui permet en fait de comprendre un peu le contexte historique de l'Ukraine, comprendre des choses qui sont peut-être évidentes, mais qu'on ignore quand on n'a pas mis un peu le doigt dans cette connaissance de ce pays, l'Ukraine, qui veut d'ailleurs dire en fait la bordure, la frontière. Donc en fait, le terme même d'Ukraine signifie la frontière. Et c'est un pays qui a été confronté depuis l'Antiquité à des invasions multiples de peuples différents. Je ne vais pas entrer dans le détail, je vous conseille vraiment de lire ce livre pour pouvoir vous forger une idée un peu plus complexe que celle voilà, qu'on a habituellement avec simplement les conflits. Les conflits liés à la guerre avec la Russie et les avancées et puis les retraites et les bombardements, etc. Voilà. Donc l'Ukraine de l'Antiquité à 2015, une histoire abrégée, un regard particulier, un livre de Francis Mokobeg aux éditions Sutton. J'ajoute que évidemment il s'arrête, l'auteur s'arrête à 2015 puisque il y a eu des premiers conflits en 2014, donc. Dans ce pays. Un deuxième livre, donc Anthologie du Donbass, des textes qui sont rassemblés par Irina Mitrichine. Donc c'est donc un livre qui permet de connaître les auteurs phares d'Ukraine. C'est un livre publié chez L'Harmattan dans la collection Présence ukrainienne. Donc voilà, il y avait une collection sur l'Ukraine, donc avant la guerre, et en fait, eh bien cette publication tombe à point nommé pour avoir un peu une connaissance des auteurs de ce pays. Alors, je vais vous proposer un court passage de Katerina Babkina, désolé pour la prononciation. Voilà, c'est donc un poème de 2017. Donc qui est donc postérieur au premier conflit, à la première guerre donc contre les Russes. Dans la tête de la fille,
des éclats dorés. Sur les poignets, des clochettes. Dans le ventre, des papillons. Dans la cour, des fleurs, grandes et mordorées. Dans ses rêves, chaque nuit, les combats s'en vont. Et lorsque s'éloigne l'écho des tirs et des cris, tout le monde revient, tout le monde est en vie. Derrière la fenêtre de la fille, un magasin anéanti. La brume matinale, l'aube qui luit. Sur les balançoires arrachées et les parkings détruits, elle a dans la poche les clés des voisins et amis et les petites pièces qui sonnent en pluie lorsqu'elle descend dans la cave pour la nuit. Qu'est-ce qui la retient? Les chaînettes et les nœuds. Les photographies où ses parents ne sont pas encore vieux. Les racines de la mémoire, la peau chaude du passé. Et les colombes, comme les anges qui arrivent de temps en temps. Elle est protégée par les choses qu'elle protège précieusement, tout ce en quoi elle croit désespérément. Voilà, donc un aperçu des textes qui sont réunis par Irina Dmitrichine, donc un livre « Anthologie du Donbass », donc publié par l'Harmattan dans la collection « Présence ukrainienne », un livre assez récent, un livre de 2018. Et puis enfin, deux petits livres, des livres pour enfants, qui sont très intéressants parce qu'ils permettent en fait d'avoir accès un peu aux contes populaires ukrainiens. Le coq et l'épi de blé. Alors, c'est un conte qui est assez fabuleux. Et il est c'est un texte bilingue. Il est à la fois en ukrainien, ce qui permet d'avoir un peu une relation à cette langue. Vraiment très différente de la nôtre et bien sûr en français. Donc avec des illustrations qui sont assez fabuleuses, très colorées, voilà, très 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 belles. Donc ce livre, Le coq et l'épi de blé, d'Igor Mektiev et pour la traduction d'Irina Dmitrichine. Donc chez l'Harmattan également, donc un livre de 2018 également. Et La Moufle, un texte également bilingue, un conte très très intéressant qui permet aussi d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce peuple ukrainien confronté aux invasions et à la nécessité aussi de se protéger. Alors, La Moufle, je ne vais pas dévoiler, mais c'est vraiment très intéressant à lire. Donc, d'Irina Dmitrichine, toujours pour la traduction, et Igor Mektiev, donc pour les textes. Voilà pour cette rubrique des livres spéciale Ukraine. Nous nous retrouvons tout de suite après la pause avec Mauro Almeida Cabral.
Até muda de cor. Aquele pirão feijão com óleo de palma. A mistura explosiva. Paladar que me dá vida. Para a ceia mais uma vez que a família se reúne. No ar há perfume e velhas histórias vêm ao lume. Lembramos Angola, o Cota chora. Há tanto tempo à espera da hora da paz que se anuncia. Para ver a terra mãe que deixamos sem querer. Nem as fotos do passado conseguimos trazer. Aquele pirão é nossa cultura. É como o Simba, aquela panga repita. Os ritmos de Angola são a coisa mais bonita. Domingo vou comer.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre en auteur, animée par Pascal Lerest, qui reçoit aujourd'hui Mauro Almeida Cabral pour son livre L'arme d'errance. Alors, on a bien compris donc le sujet de ce livre consiste à introspecter un petit peu la question de l'errance des femmes à la rue, donc au Luxembourg. Et tu nous évoquais un petit peu les problématiques sur ce genre donc particulier. Est-ce que on peut en savoir un peu plus donc sur les difficultés que rencontrent les femmes à la rue donc au Luxembourg?
Alors les femmes que j'ai rencontrées, elles m'ont partager pas mal de leur vécu. Ça ne s'est pas du tout fait tout de suite. Hein. D'ailleurs, je ne les approchais pas en disant, écoute, je fais une recherche, etc. Est-ce que... Non, c'était absolument pas mon approche. C'était plutôt vraiment dans le partage très sincère de vouloir connaître la personne. Et ça s'est fait de fil en aiguille sur des mois, mais parfois même sur des années. Où elles ont commencé à me partager des choses de leur enfance, mais aussi des relations très récentes qu'elles ont pu avoir avec leurs parents, la famille, des partenaires, etc. Moi, là, j'en propose vraiment une brève synthèse de quelques rencontres que j'ai pu faire à travers les années. Donc, c'est ce qui en est ressorti. Donc, il fallait faire des choix, évidemment. Ce qu'elles vivent souvent, évidemment, ce sont pas mal de violences. Des violences... physique, des violences mentales aussi, donc psychiques, des violences institutionnelles aussi, j'ai un peu abordé la question là. Ce qui m'a aussi frappé quelque part, c'est que les violences, donc j'en parle un peu dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on a un peu cette vision androcentrique de l'errance. Donc androcentrique, ça veut dire qu'on va penser une question ou un phénomène social à travers le prisme masculin. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on le retrouve très souvent dans la question des habitants de la rue. On parle des SDF, donc des sans domicile fixe, et automatiquement, ça va éveiller des représentations plus ou moins enfouies quelque part dans nos têtes, et à chaque fois, on va se représenter plutôt un homme et non pas une femme. Et
pourquoi ?
Je pense qu'il y a cette image qui est véhiculée de l'homme, justement, pauvre, édenté, qui a des vêtements troués sur lui, qui boit sa bouteille de vin sur un banc public et qui nourrit les pigeons. Enfin, c'est très, très cliché ce que je raconte là. Ouais. Mais quand on va un peu demander aux gens c'est quoi un habitant de la rue pour vous, c'est ça que je retrouvais très souvent. Et je me dis, tiens, c'est marrant parce que c'est absolument pas ce que je rencontre dans mon quotidien ou dans le cadre des recherches pour l'université. Alors, évidemment, il y en a qui correspondent à cette image-là. Et bien évidemment, il faut que cette représentation vienne de quelque part. Mais on ne peut pas réduire la question-là à cette représentation-là. Et alors, pour les femmes, par exemple, j'ai été surpris de voir que la question des violences, là aussi, on a plutôt cette image de l'homme agressif et de la femme victime, de manière globale dans notre société. Ouais. Et dans la rue, ce n'est pas différent. Sauf que les violences vécues peuvent aussi se faire entre femmes. Ça, j'ai trouvé très intéressant. Des femmes qui me racontaient que des fois, elles se sentaient plus en sécurité entre hommes qu'entre un groupe de femmes parce qu'elles se faisaient voler leurs affaires, elles se faisaient agresser, etc. etc. Et donc, voilà, j'ai trouvé intéressant comme réflexion que voilà, la violence ne devait pas être genrée forcément. Et voilà, ça m'a permis d'ouvrir un peu le champ des possibles dans cette ethnographie, quoi.
Et le fait que on ait du mal à se représenter des femmes à la rue, est-ce que c'est le fait que la femme représente aussi la maternité, qu'on peine à imaginer qu'une femme qui a été mère puisse être à la rue aussi, ou c'est des choses qui peuvent arriver, ou d'ailleurs est-ce qu'on rencontre des femmes qui ont déjà eu des enfants à la rue?
Oui, bien sûr. Alors, pour le premier volet, au niveau de représentation sociale, déjà, j'ai été étonné lorsque j'ai fait cette recherche-là, au niveau de la littérature spécialisée, Il n'y a pas grand-chose sur les femmes. Sur les femmes à la rue, pardon. Mmh. On retrouve beaucoup de choses sur les hommes, etc. Mais sur les femmes, En tout cas, dans la littérature francophone, on a assez vite fait le tour. Ouais. À l'époque, il me semble, mais il faudrait que je vérifie, ça tournait autour d'une trentaine de références au Canada, etc. Et ils ont beaucoup écrit là-dessus aussi, sur l'itinérance des femmes, en Europe un peu aussi. Mais globalement, c'est plutôt sur les hommes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a cette représentation, encore aujourd'hui, que dans la société, la place de la femme, elle est plutôt, alors de manière très schématique, très cliché encore une fois. Ouais. On parle justement des représentations, donc la représentation de la femme qui est à la maison, de préférence de son père ou de son mari, qui est dans la cuisine, qui joue avec les enfants, qui participe à l'éducation de l'enfant. Alors évidemment, si on vous présente une femme à la rue qui n'a pas du tout le corps tel qu'on se l'imagine, ou le corps qu'on nous vend, entre guillemets, dans les publicités, etc., ça va questionner les représentations qu'on s'est fait de la femme aujourd'hui en Occident. Ce sont des femmes dont le corps est fortement meurtri. C'est le corps, on va se poser la question de savoir est-ce qu'il pourrait encore enfanter quelque part, est-ce qu'elle pourrait s'occuper d'un enfant aussi plus tard. La question des assuétudes, la question de la prostitution, tout ça, ça vient vraiment mettre à mal la représentation de ce corps féminin qui doit être sain, qui doit être propre, dont on doit respecter l'hygiène, etc., etc. Et ce que j'ai retrouvé là, sur ce terrain-là, c'était que cette image-là ne correspondait absolument pas à la femme. En même temps, ça veut aussi dire qu'on peut être femme autrement. Elles ne sont pas moins femmes que les autres, et ça, je trouve très important de le souligner. Il n'y a pas une femme générique de la société. Il faut pouvoir accepter qu'il y a plusieurs formes qui sont possibles.
C'est vraiment passionnant. Donc, on arrive au terme de cette première émission. Et dans la suivante, eh bien, nous allons pouvoir vraiment aller dans le détail et essayer de comprendre un petit peu cette terrible question de l'errance et de l'errance au féminin. Merci Moreau pour être venu jusqu'à nous du Luxembourg et donc je te dis au mois suivant. À bientôt.
À bientôt, merci.